juin, il est 5h.
Le 5-7, Mathilde Munoz.
Bonjour à tous. Le stockage des données est un enjeu majeur aujourd'hui, notamment pour les administrations et les entreprises. Comment les héberger de la manière la plus sécurisée possible? La France ne veut plus dépendre des États-Unis, mais a-t-on les moyens de rivaliser avec Google et Microsoft? Je reçois ce matin à 6h20 le patron d'OVH Cloud, le leader européen du cloud, Octave Klabat. Il participe au salon Vivatech qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. La mangrove, la forêt, les coraux, la nature a souffert du passage du cyclone Chido à Mayotte il y a 6 mois. Elle commence à se reconstituer tout doucement. Reportage à 5h40. Dans le 5-7, il y a aussi le Carrefour à 6h40 avec Marie Boueton pour Regarde le Monde. Elle nous expliquera pourquoi les cas de rougeole explosent en Roumanie. Quant à Raphaël Gerson, il décarbone la fête des pères. Regarde la France avec un garagiste et dans son atelier, c'est nickel, pas la moindre tache de cambouis. Enfin, dans les bulles de BD, beaucoup d'enfants et un bébé licorne. Le journal, Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Moins de 24 heures après la mort d'une surveillante hier à Nogent, en Haute-Marne, poignardée par un collégien, l'affaire est déjà devenue politique.
Dans un contexte où les agressions au couteau se multiplient aux abords des écoles, l'opposition n'a pas tardé à s'emparer de l'affaire. Marine Le Pen, notamment, dénonce, je cite, le laxisme pur et dur du gouvernement sur les questions de sécurité. Et les réponses de l'exécutif étaient donc très attendues. Et dans la soirée, Julien Nenni, François Bayrou, puis Emmanuel Macron se sont succédé pour répliquer.
Les deux têtes de l'exécutif en direct à la télévision à quelques minutes d'intervalle pour réagir au drame de Nogent. L'événement est rare et dit beaucoup de l'urgence à apporter des réponses politiques. C'est d'abord le Premier ministre François Bayrou qui sur TF1 promet d'interdire la vente de certaines armes blanches aux mineurs.
Quand allons-nous l'interdire? Tout de suite.
Appuyé quelques instants plus tard sur France 2 par Emmanuel Macron.
C'est pas possible qu'un enfant, qu'un adolescent ait une arme blanche ou dans la rue ou à l'école.
Mais
c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des vendeurs, mais ça veut dire qu'on va durcir les règles, ça veut dire qu'on va mettre des sanctions massives financières, des interdictions. On ne pourra plus vendre ces armes blanches.
Mais encore faut-il pouvoir contrôler l'âge de ceux qui achètent ces armes blanches, en particulier sur Internet. Là-dessus, le Premier ministre avance une piste.
Il faudra qu'un adulte signe la réception. C'est-à-dire, au moment de la livraison du colis, on contrôlera quel est l'âge de celui qui signe la réception du colis.
Mais Emmanuel Macron veut aller plus loin.
On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre.
Interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, l'idée germait dans l'esprit du président depuis des mois, au point d'envisager un référendum sur cette question avant la fin de l'année. Une piste qui reste ouverte, confiait hier soir l'Élysée.
Et au collège Françoise Dolto à Nogent, les cours seront encore suspendus aujourd'hui. Une cellule de soutien psychologique est en place.
Et Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, est l'invitée de France Inter ce matin à 7h50.
Un élève français de 17 ans fait partie des victimes de la fusillade en Autriche, à Graz, dans un établissement scolaire. Un ancien élève âgé de 21 ans a ouvert le feu, tuant 10 personnes en tout avant de se suicider. Le chancelier autrichien décrète 3 jours de deuil national.
Le centre de Los Angeles sous couvre-feu cette nuit.
Annonce de la maire de la deuxième ville des États-Unis qui entend mettre fin aux actes de vandalisme et de pillage. Depuis plusieurs jours, Los Angeles est marqué par des manifestations parfois violentes contre la politique migratoire du président américain. Los Angeles serait en train de brûler si je n'avais pas envoyé l'armée, dit Donald Trump, lui qui a déployé près de 5000 membres des forces de l'ordre sur place, potentiellement pour 2 mois. Et le président américain envisage désormais ouvertement d'avoir recours à l'état d'urgence.
S'il y a une insurrection, je l'invoquerai certainement, on verra. Mais je peux vous dire que la nuit dernière a été terrible. La nuit d'avant aussi. Tout ce que je veux, c'est la sécurité. Je veux juste que la zone soit sûre. Los Angeles était en état de siège jusqu'à notre arrivée. En faisant ce que j'ai fait, j'ai mis fin à la violence à Los Angeles. On a évité une catastrophe.
Donald Trump qui étrille au passage l'Union européenne qui doit, selon lui, agir, je cite, contre l'immigration hors de contrôle et avant qu'il ne soit trop tard, en faisant un lien avec la situation à Los Angeles, envahie par des ennemis étrangers, selon le président américain. 7 membres de l'équipage du Madeleine, dont l'eurodéputé Rima Hassan, restent détenus en Israël après avoir refusé de signer les documents d'expulsion et pour cause, ils contestent être entrés illégalement dans le pays. Leur bateau humanitaire a été intercepté par la marine israélienne alors qu'ils faisaient route vers Gaza. Deux ressortissants français ont accepté leur expulsion, ainsi que Greta Thunberg, arrivée hier soir en Suède. Le médecin français Baptiste André affirme avoir été témoin de maltraitance de la part des services israéliens de l'immigration. Hier soir encore, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, place de la République, pour réclamer la fin du blocus humanitaire à Gaza.
Une escorte hors norme pour un transfert hors norme.
Celui de Mohamed Amra, le narcotrafiquant, a rendez-vous cette semaine au tribunal judiciaire de Paris pour être entendu par un juge d'instruction. Première audition depuis son interpellation en Roumanie, où il avait fui après son évasion meurtrière il y a un an. Alors quand et comment le détenu sera acheminé, c'est quasiment un secret défense. Les moyens engagés seront hors norme, a déjà prévenu le garde des Sceaux Gérald Darmanin, y compris avec une option dans les airs, Emmanuel Leclerc.
Tout peut être modifié au dernier moment, y compris les itinéraires, confie un spécialiste habitué de ces missions d'extraction jugées à haut risque. En février dernier, Mohamed Amra était arrivé de l'aéroport de Villacoublay, près d'Orly. Deux 4x4 blancs du GIGN, un van gris, tous blindés, entourés d'une escorte de motards policiers, comme ce fut le cas pour Salah Abdeslam lors du procès V13 ou encore pour Redouane Faïd. Mais là, pour les quelques 200 km de trajet, il peut y avoir en plus des troupes disposées sur certaines intersections, ou alors l'hélicoptère du GIGN qui peut être utilisé soit pour sécuriser le convoi, soit pour assurer lui-même une partie du transfert, avec différentes options de DZ, de drop zone, pour déposer le détenu à proximité du tribunal judiciaire parisien. Enfin, ultime protection, le GIGN peut aussi déployer son unité de sniper, de tireur d'élite, que ce soit au départ de la prison de Condé-sur-Sarthe, sur le parcours ou à l'arrivée au tribunal. Mais vraiment pas sûr que l'on aille jusque-là, dit une source au ministère de l'Intérieur, surtout que la quasi-totalité de l'entourage de Mohamed Amra dort actuellement en prison.
Emmanuel Leclerc. L'État français jugé ce mercredi à Paris pour faute lourde et déni de justice dans l'affaire Estelle Mouzin. Son père, Éric Mouzin, estime, je cite, que tout a été mal fait dans l'enquête sur la disparition de sa fille en janvier 2003 à l'âge de 9 ans. C'était à Guermantes, en Seine-et-Marne. Selon lui, en refusant pendant 16 ans de creuser la piste Michel Fourniret, la justice a perdu des années. Et Michel Fourniret qui est mort en 2021 sans avoir pu être jugé. Dans cette affaire, Monique Olivier a été condamnée en 2023 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans cet enlèvement suivi de meurtre. Le pays est aux côtés de leur famille et de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, écrit Emmanuel Macron sur X après la mort de deux pompiers à Lens, dans l'Aisne. Ils ont été ensevelis lundi soir dans l'effondrement d'un immeuble dans lequel ils intervenaient pour un incendie. Âgés de 22 et 23 ans, ils étaient tous les deux pompiers volontaires.
C'était le journal de Laura Dulieu. Il est 5h08.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Quel est le cocktail du jour, Elodie Calac?
Chaleur, soleil et orage, le soleil s'installe vite ce matin. Petit bémol du nord de la Bretagne vers la Normandie et le nord de la Seine. Nuages bas et brouillards sont fréquents. Ils vont se dissiper en cours de matinée. C'est parfois voilé de l'Aquitaine à la Vendée ce matin. Cet après-midi, le temps va devenir lourd à l'ouest, nuageux avec des ondées possibles. Des orages parfois marqués vont éclater d'abord sur les Pyrénées, puis entre le sud-ouest, les Charentes et la Bretagne en soirée. Les températures affichent déjà 17 à 20 degrés sur le sud-ouest et en Méditerranée ce matin, 10 à 15 ailleurs. Cet après-midi, midi, il va faire chaud, très chaud sur le sud-ouest, 36 degrés à Bordeaux, à Montauban, 35 à La Rochelle, Limoges et Nîmes, 33 à Nantes, 31 à Bourges, 30 degrés à Rennes et à Lyon, 28 à Caen, Paris, Dijon, 24 à Cambrai et 20 degrés à Cherbourg. Demain et vendredi, les fortes chaleurs vont se décaler vers l'est et il fera moins chaud sur la façade ouest.
France Inter, le 5-7.
L'océan en 30 questions, c'est un petit livre bien utile qui compile l'essentiel des connaissances actuelles sur les océans, les fonds marins, les courants, les marées, la biodiversité, le transport et j'en passe. José-Emmanuel Lamarque nous le présente dans 3 minutes. La société d'héritiers, d'où ça sort? La question est posée à Cyril Lacarrière. Quant à Tanguy Pastureau, il nous propose une chronique entre terre et mer, la terre battue de Roland-Garros et le sommet de l'ONU sur les océans. Vous avez le programme, on commence avec le chanteur Dali qui fait appel à un autre musicien, Anderson .Paak, pour l'aider à affronter une déception amoureuse.
J'ai encore envie que tu m'appelles depuis que t'es parti avec l'autre là-bas. J'aurais adoré te plaire, j'aurais adoré te faire danser encore une fois.
du Anderson .Paak. Pour aller mieux, je rallume la frappe, j'ai qu'il faut prier vers les cieux. Je mets du Anderson .Paak. Je suis arraché, j'ai les deux hanches sous les yeux. Une bonne idée, mais ce serait bien qu'on en parle.
Sinon,
oh, bah. Oublie-moi, moi je t'ai oublié, c'est certain. J'y ai pensé qu'une fois quand j'ai vu le regard de cette fille que j'ai confondu avec le tien. Qui adorait comme si c'était toi, comme si je l'aime. Qui semble avoir ce que t'avais dans la façon dont elle essaye. Peut-être que j'aurais dû faire mieux. Peut-être que j'aurais dû me taire un peu. Je garde le silence, tout seul. Le crâne qui toque, mémorise la douceur. Je garde le silence, tout seul.
Anderson .Paak de Dali à l'affiche de plusieurs festivals cet été, notamment les Francopholies de La Rochelle, Fnac Live à Paris et le tout premier, c'est Europavox à Clermont-Ferrand à la fin du mois. Il est 5h12, les Chroniques Littorales nous présentent un livre de poche. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Un livre très pédagogique sur l'océan.
Et ceci en 100 pages et des questions, qui a pour titre « L'océan en 30 questions » par deux océanographes, Marina Lévy et Laurent Bopp. J'accueille aujourd'hui Marina Lévy. Marina Lévy, vous avez commis un ouvrage d'initiation à l'océan. Pourquoi ce livre ?
Alors pourquoi ce livre ? Ça faisait longtemps qu'on avait envie de séparer le vrai du faux. On lit beaucoup de choses sur l'océan. Il y a souvent un mélange de vérité scientifique et puis d'émotions. Et dans ces émotions, il y a souvent des chiffres ou des idées qui sont pas forcément exact. Et on avait envie d'apporter vraiment un regard de scientifique pour mettre ces chiffres dans le contexte et avoir des choses qui soient vraiment sourcées. En fait, la façon dont on a organisé ce livre, on l'a organisé grosso modo en trois parties, même si c'est pas dit explicitement. La première partie, c'est pour comprendre l'océan, donc sa profondeur, pourquoi est-ce qu'il est salé, comment est-ce qu'on l'observe. Ouais. La deuxième partie, c'est les pressions humaines qui s'exercent sur l'océan et les conséquences que ça va avoir sur ses écosystèmes et sur nous également. Et puis la troisième partie, c'est les solutions qu'apporte l'océan.
Par exemple,
les énergies marines renouvelables, la mise en place d'aires marines protégées pour protéger les écosystèmes, la mise en place d'une gouvernance de l'océan adaptée au partage des ressources. Là, c'est un des grands enjeux de la conférence de Nice, l'UNOC et le traité de protection de la haute mer. Voilà, on a pu aborder et décoder et déchiffrer 30 questions essentielles qui concernent l'océan.
Ce qui est intéressant, Marina Lévy, il y a des illustrations pour que l'on comprenne les choses. Par exemple, l'océan, c'est 71% de la surface de la Terre et une profondeur maximale de 11 034 mètres. Et c'est 97% de l'eau sur la Terre. Et alors attention, 247 161 espèces répertoriées. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres, mais combien ? On ne sait pas.
Voilà, on ne sait pas. On a des estimations du nombre d'espèces qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, c'est basé sur des extrapolations du taux de découverte des espèces. On estime qu'il pourrait y avoir entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions d'espèces inconnues dans l'océan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus de 1500 qui sont déjà menacées d'extinction. Là encore, c'est certainement un chiffre qui est largement sous-estimé, puisqu'on ne connaît pas non plus toutes les espèces qui sont menacées d'extinction.
Expliquez-moi ce qu'est l'océan.
Ce qu'on appelle océan, et c'est ça qui est important, océan avec un O majuscule, c'est que c'est un seul océan. On a souvent tendance à décomposer en cinq bassins océaniques, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Austral et l'Arctique.
Oui.
Mais en fait, en tant qu'entité géophysique, c'est une seule masse d'eau, qui regroupe même d'ailleurs l'ensemble des mers qui se connectent à lui. Il y a 58 mers répertoriées sur le globe, mais qui font partie de cet océan global. Donc c'est l'océan.
Vous avez vraiment ratissé très très large, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Peut-on simuler l'océan ? Y a-t-il des déserts dans l'océan ? Pourquoi dépendons-nous de l'océan ? Il y a des déserts dans l'océan ?
Oui, il y a des déserts dans l'océan. En fait, l'océan tel qu'on le voit, on a l'impression d'une immense masse d'eau bleue.
Oui.
Et en fait, si vous le regardez depuis l'espace, vous vous rendrez compte qu'il y a des couleurs qui sont très différentes, du vert, du bleu, etc. Les endroits qui sont les plus verts, c'est les endroits où il y a le plus de chlorophylle. Et là, c'est des régions qui sont très productives, l'équivalent des forêts qu'on a sur Terre. Et à l'inverse, au cœur des grands gyres qui sont dans les océans tropicaux, atlantiques, pacifiques.
Qu'est-ce que c'est qu'un gyre ?
Un gyre, c'est un endroit de l'océan qui occupe l'essentiel des tropiques où les courants circulent de manière circulaire.
Un gros tourbillon, quoi.
Un énorme tourbillon. Et au sein de ces tourbillons, le mouvement de l'eau, c'est un mouvement de subsidence. Donc l'eau a tendance à plonger vers le bas. Et en plongeant vers le bas, il ne peut pas faire remonter des engrais qui permettent à la végétation et au plancton de croître. Et on appelle ça des déserts. Et les eaux sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes dans ces gyres. Dans la gyre du Pacifique, auprès de l'île de Pâques, on a les eaux les plus claires répertoriées avec des couleurs qui vont même vers le violet.
Eh bien, merci beaucoup Marina Lévy pour tout comprendre sur l'océan. L'océan en 30 questions par vous, Marina Lévy et Laurent. Bob, vous êtes deux océanographes et c'est édité à la Documentation française. À demain, Mathilde Munoz.
À demain, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7. Sur France Inter.
Il est 5h16 à la une de la presse ce matin. La mort d'une surveillante d'un collège à Nogent en Haute-Marne. Mélanie poignardée par un élève de 14 ans lors d'une fouille. La France est sous le choc, titre Le Figaro. Sidération, incrédulité, effroi, écrit Libération. C'est le drame de trop pour le Parisien aujourd'hui en France. Un drame qui relance le débat politique sur les armes blanches. En un an, les signalements de ce type d'armes dans les établissements scolaires ont bondi de 15% selon les chiffres du gouvernement. Le premier ministre François Bayrou annonce l'interdiction immédiate de la vente d'armes blanches aux mineurs et il envisage une nouvelle expérimentation de portiques de détection à l'entrée des écoles. Une non-réponse pour l'humanité pour qui il faut surtout des moyens humains supplémentaires, des psychologues, des infirmiers et des médecins scolaires. Pour l'opinion, ce drame rappelle Emmanuel Macron au principe de réalité. Je vous livre l'analyse du journal. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, il a un problème avec les questions de sécurité. Il cherche son chemin entre surinvestissement de droite et déni de gauche. Il veut une réponse sécuritaire très ferme et il s'interroge en sociologue sur les méfaits des écrans et des réseaux sociaux, la longueur des vacances et la déresponsabilisation des parents. Conclusion de l'opinion, c'est toujours son fameux « en même temps ». L'autre grand titre, c'est Donald Trump qui déploie les réservistes de l'armée et les Marines en Californie. Il le fait pour étouffer la contestation de sa politique migratoire, explique La Croix. L'humanité dénonce un coup de force pour mettre au pas le principal l'État démocrate. Et enfin, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris Vivatech, un grand salon international consacré à l'innovation. Tous les champions français seront là, jeunes pousses ou grands groupes. La French Tech est sur tous les fronts. Intelligence artificielle, défense, guerre commerciale. Et ça, c'est le dossier des échos. Et moi, je reçois à ce sujet, à 6h20, le patron fondateur d'OVH Cloud, Octave Klaba, pour parler avec lui du stockage des données. C'est un enjeu de souveraineté. Est-il encore possible de devenir riche si nos parents ne l'étaient pas ? Mathieu Noël a posé la question hier à son invité dans Zoom Zoom Zen. Nous vivons dans une société d'héritiers où la succession joue un rôle très important dans la constitution des fortunes et dans la réussite sociale. Avant de creuser le sujet, c'est Cyril Lacarrière qui lance l'émission en nous expliquant d'où sort cette société d'héritiers.
Des Romains, car ce sont eux qui ont formalisé le concept de la succession avec d'une part la succession légale et de l'autre la succession testamentaire. Le père de famille, le pater familias avait le droit de pouvoir décider qui hériterait de quoi. Attention quand même, pas le droit de leur faire une Johnny à leurs enfants, comprendre pas le droit de déshériter ses descendants directs. Au Moyen-Âge, c'est du côté des Allemands que le droit des successions s'est codifié, sans surprise à la faveur des hommes. Le principe était simple, il fallait partager l'héritage de manière strictement égalitaire entre les fils. Et puis bien sûr, l'Église est venue mettre son nez dans cette affaire, elle encourageait ses ouailles à léguer leurs biens aux plus démunis, et à l'Église, évidemment. Dans le système féodal, la succession, c'est aussi une histoire de fils et de fils aîné, puisque c'est lui qui hérite de tout, ou presque.
Et si on revient plus près de nous, maintenant ?
Eh bien, grâce à la Révolution française, ça en a été fini des privilèges féodaux, et on a enfin introduit des principes d'égalité. Terminé aussi le droit d'aînesse, supprimé en 1792. C'est aussi avec la Révolution qu'est apparue la première taxe pour les transmissions en ligne directe, 1% seulement, pas énorme, mais c'est un début. Et puis en 1804, le Code civil établit les règles d'héritage qui existent encore aujourd'hui, par exemple la part minimale destinée aux descendants directs. Alors, de quoi hérite-t-on aujourd'hui ? L'héritage est-il un facteur aggravant de la fracture sociale ? Faut-il plus taxer, voire tout prendre ? Est-ce que c'est injuste d'hériter ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef de Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël. À 16h aujourd'hui, ils zoomeront sur la falaise de verre quand les entreprises en crise font appel à des femmes pour les diriger. 5h20, on retrouve l'humour de Tanguy Pastureau dans 3 minutes, juste le temps d'écouter la Britannique Lola Young avec One Thing.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be.
One Thing de Lola Young qui jouera ce soir en première partie du concert de Billie Eilish à l'Accor Arena de Paris.
France Inter.
Il est 5h24, Tanguy Pastureau n'était pas là lundi, il profitait d'un long week-end, mais il est revenu maltraiter l'info hier dans la bande originale.
C'est formidable les week-ends de 3 jours, il faut reconnaître que grâce aux catholiques, on mène la grande ville, hein, Pâques, Ascension, Pentecôte, Toussaint, ils sont super ces gens-là. Si notre civilisation avait été fondée par des athées, on travaillerait 24 heures sur 24, et la chanson Like a Prayer de Madonna, ce serait juste l'histoire d'une dame à côté d'une lampe à bronzer, qui dit c'était le seul moyen pour moi de trouver l'illumination. Ah, alors certes, à cause de certains prêtres, des gens, notamment Abbé Taram, ont découvert la sexualité entre 9 ans et demi et 12 ans, ce qui est tôt. Mais sinon, mais quelle religion formidable. Là, il n'y a plus rien avant le 15 août. J'imagine que les types qui ont conçu le truc, qui étaient des juilletistes, ils sont revenus au bureau au Vatican le 14 août, et ils se sont dit flemme de reprendre, et hop, Assomption. Bah, parce que moi, je veux bien les juifs, les musulmans, mais qu'est-ce que ça apporte en termes de jours fériés? Bah rien, ils les font entre eux. Parfois, ils s'arrêtent de manger et de boire pendant 25 heures, mais vous imaginez s'ils deviennent majoritaires, ce que vont vivre les restaurateurs. Philippe Etchebest, il n'y a plus tous les hérétiques qui se baffrent, il est cuit. cuit ou mi-cuit, comme disent les chefs. Hein voilà, une blague. Bref, week-end de 3 jours, génial, vous m'avez manqué, surtout 2 d'entre vous. Instant showbiz, j'imagine que vous étiez à Roland. Hein, tous, voilà, on dit Roland dans le milieu, pas Roland Garros, parce que les diminutifs, ça montre qu'on vit la rêve de manière intime. Moi, je dis pas Adèle Van Rett, mais Adèle. Elle, en parlant de moi, dit l'autre con. Parfois, on sait même pas de qui on parle. Un ami du showbiz vous dit, t'as vu pour Pierre? Et là, vous réfléchissez, est-ce Pierre Palmade qui a conduit un tractopelle après avoir bu 3 cubis Beaujolais GHB? Est-ce que Pierre Arditi, atteint de démence, a appelé à voter à droite? Est-ce que Pierre Laval a été réhabilité sur un groupe Facebook de députés RN? Et là, votre interlocuteur répond, mais non, Pierre! Et en fait, c'était Pierre Garnier, ce chanteur à catogan qui a les cheveux tellement tirés que ça lui remonte les dents derrière les oreilles, qui a juste sorti un single, quoi. Donc samedi, j'étais à Roland. Je crois qu'il y avait Pierre, d'ailleurs. Ninet. Hein, c'était la finale d'âme. Coco contre Arina. À un moment, je suis même passé à l'écran. Vous m'avez vu, non? Hein, j'avais une casquette des Yankees, les lunettes d'Eva Jolie et j'étais noir. Ok, c'était Spike Lee. Mais s'ils avaient filmé 48 rangées derrière, au niveau de là où les pigeons s'accrochent pour déféquer, on m'aurait vu. À Roland, il y avait plein de stars, dont Stan Smith, l'ancien champion de tennis qui a donné son nom à la basket. C'est bizarre de donner son nom à un truc qui très vite pue. Hein, ça a fait pareil avec Jean-Paul Maroual et Gisèle Pipi après qu'on a bouffé des asperges. Alors j'ai un peu suivi l'actu malgré ce week-end so VIP. J'ai vu qu'un rabbin qui s'était fait agresser à Deauville s'est ensuite fait agresser à Neuilly. Alors à chaque fois, c'est lui qui prend. Hein, ça se trouve, les autres rabbins lui ont mis un traceur et ont filé les coordonnées à tous les antisémites. Le mec se prend une chaise dans la tête pendant que les autres à 20 mètres de là boivent un café en disant bah, « on est bien hein. ». J'ai vu aussi qu'Emmanuel Macron était au sommet de l'ONU sur les océans. Les océans, c'est une grande zone où flottent des plastiques, une sorte d'immense piscine à boules, mais avec des dorades. Et en interview, Macron, il s'est livré, il a parlé de lui, c'était mignon. Il était presque humain. Une journaliste lui a demandé « quand avez-vous entendu battre le cœur de l'océan pour la première fois. » Donc là, on s'attendait à une réponse de kéké, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu dans l'eau, c'était en jet ski en train de terroriser la faune aquatique, quoi. Eh ben non, il a évoqué l'estuaire de la Somme, la destination la moins bling-bling de France, l'anti-Roland. Vous mettez Brad Pitt là-dedans, il se fait dévorer par des crabes en 12 minutes. À la fin, il reste juste son sourire niais, quoi. Alors, l'estuaire de la Somme, vous allez me dire, une fois là-bas, il faut pas mal marcher pour sentir battre le cœur de l'océan. Mais enfin, vous avez compris l'idée. Ensuite, Macron a évoqué la mer, elle lie les peuples, a-t-il dit. Alors, les peuples qui savent nager. J'ai longtemps. Moi, j'aurais ajouté parce que, pardon, mais enfin, si demain je vais aller au Wimbledon pour la suite de mon incursion dans le showbiz, voilà, je vais plutôt passer par l'Eurostar. D'ailleurs, si vous me voyez à la télé pendant Wimbledon, que je suis sexy avec un chapeau de paille Dior en train de bouffer des graines de chia, c'est que c'est Pippa Middleton. D'accord, moi, je serai 60 rangs derrière. Mais là, samedi, j'étais à Roland-Garros, je regardais Arina Sabalenka râler parce qu'il y avait du vent. Si ça avait été une éolienne, elle aurait été bien contente, mais enfin, elle a juste mal choisi sa voix. Et je me suis demandé où, moi, j'avais entendu pour la première fois battre le cœur de l'océan. Oui, à Roland, j'ai des pensées profondes. Hein, Pierre Ninet se demande certainement à quel moment sortir du cours pour aller pisser. Moi, ce sont les océans. Les Français ont bien mal choisi qui envoyer en haut de l'échelle sociale. Mais le souci, c'est que je suis comme Macron. Je suis jamais allé bien loin dans l'eau parce que j'ai peur quand on voit pas le fond dans la Seine. J'aurais peur avant d'y aller. Donc, le cœur de l'océan, disons que j'ai plus atteint son orteil gauche. Mais enfin, j'ai le souvenir de vacances au bassin d'Arcachon, ce lieu qui nous a donné Bernard Montiel et Obispo, mais qui peut se rattraper dans le futur. Où la mer était là, douce, accueillante. On restait des heures dedans, tandis qu'au loin, les animateurs du club Mickey hurlaient sur les gosses. C'était avant l'éducation positive. Hein, ceux qui faisaient des cours étaient lapidés à coups de Picsou Magazine. Souvent, les plus belles heures de nos vies quand même sont rattachées à ces moments dans l'eau. Donc, respectons les océans, la nature et elle a tort, Sabalenka. Même le vent, c'est bien.
Tanguy Pastureau, tous les jours à 12h10 dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour.
Les Français font de moins en moins d'enfants. Le nombre de naissances a diminué de 21% depuis 15 ans. Pour quelles raisons ? Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce jeudi, le 13-14 s'installe dans la maternité de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À l'écoute des soignants et des parents, pourquoi le désir d'enfant s'efface-t-il ? Comment relancer la natalité ? Quelles conséquences pour les écoles, les associations, les entreprises ? Nous ouvrons le débat avec nos invités et nos reportages.
Le 13-14 de France Inter.
En direct de la maternité de Saint-Omer, c'est demain.
Chappell Roan avoue qu'elle n'aime pas écouter ses propres chansons une fois qu'elles sont sorties. Eh bien nous, on aime les écouter et pas qu'un peu. L'artiste américaine est en playlist sur France Inter et on lui consacre même une chronique dans 5 minutes. Les voyages forment la jeunesse. L'expression se vérifie ce matin dans les bulles de BD de Laetitia Gaillet. La chronique est également dans la prochaine demi-heure. Bon réveil à tous, vous écoutez France Inter, il est 5h30. Un nouveau point sur l'actu avec Laura Dulieu. L'Autriche, encore sidérée au lendemain de la fusillade dans une école de Graz, la deuxième ville du pays.
Un ancien élève a tué 10 personnes, dont un élève français de 17 ans avant de se donner la mort. Alors c'est une ville entière et derrière elle tout un pays qui sont sous le choc après cette attaque, la plus grave jamais perpétrée dans une école autrichienne. Simon Le Baron est sur place à Graz.
Les deux mains de Lisa restent accrochées à celles de Laura sur le parvis de la cathédrale. Et pendant qu'elle parle, une troisième amie, 25 ans elle aussi, leur tend des mouchoirs. C'est mon école, dit Lisa. C'est dans cet établissement qu'elle a rencontré ses meilleures copines. Elle a pleuré après le bac quand elle l'a quitté.
Je pense aux familles qui ont perdu leurs enfants et qui traversent le pire moment de leur vie. Je ne sais pas comment on peut sortir de ça.
D'abord, en étant solidaire, Laura l'a vu en répondant à l'appel de la Croix-Rouge.
Je suis allée donner mon sang. J'avais l'impression que tout Grasse était là. Ça m'a touchée de voir que toute la ville se tenait ensemble.
Ils sont des centaines à sortir de la messe d'hommage aux victimes. Philippe et Anna sont retraités. Lui dit qu'il est resté paralysé toute la journée. Elle, que ce genre de violence était impensable dans cette ville, dans ce pays.
C'est un choc. C'est un monde idéal qui s'effondre. On pense que ça peut arriver aux États-Unis, mais pas ici.
Pourtant ici, pas de polémique. La maire de Graz soupire. Une réponse politique? Elle dit qu'on ne sait pas pourquoi le meurtrier a fait cela. Qu'un jour, peut-être, on pourra en tirer des conséquences. Mais que cela ne ramènera pas les morts. Elle Kekar est une élue communiste, le chancelier et le ministre de l'Intérieur, conservateur, passent sans un mot devant la caméra. L'heure est bel et bien à l'unité. Autour de la fontaine, devant la mairie, des milliers de jeunes viennent allumer des bougies.
Simon Le Baron, envoyé spécial à Graz pour France Inter. Et 3 jours de deuil national ont été décrétés par le chancelier autrichien. Le couvre-feu vient d'entrer en vigueur dans le centre de Los Angeles aux États-Unis. Couvre-feu annoncé par la maire de la ville, alors que des centaines de militaires, marines et réservistes ont encore été envoyés par Donald Trump dans la deuxième ville des États-Unis contre l'avis des autorités locales. Le gouverneur démocrate de Californie demande à la justice d'empêcher ce déploiement. Depuis plusieurs jours, Los Angeles est marqué par des manifestations parfois violentes contre la politique migratoire du président américain. De nouvelles frappes russes en Ukraine cette nuit, cette fois sur Kharkiv. Il y a au moins 2 morts et 54 blessés au lendemain d'attaques similaires qui ont fait 3 morts, cette fois à Kiev et à Odessa. Greta Thunberg est arrivée en Suède hier soir après une escale en France et son expulsion d'Israël. Membre de l'équipage du Madlin, le voilier humanitaire intercepté par la marine israélienne alors qu'il faisait route vers Gaza, la militante écologiste dénonce les violations continues du droit international et les crimes de guerre dont Israël se rend coupable. Parmi les 12 personnes qui se trouvaient à bord du bateau, 7 ont refusé de signer les documents d'expulsion, parmi lesquels l'eurodéputé Rima Hassan. Il réfute d'être entré illégalement en Israël. Les 12 activistes ont aussi reçu l'interdiction d'entrer dans le pays pendant 100 ans. Tandis qu'à Gaza, la défense civile annonce 15 morts hier, tués par Israël en essayant d'atteindre un centre de distribution de colis alimentaires. L'armée israélienne reconnaît avoir effectué, je cite, des tirs de sommation.
Face aux critiques sur la gestion sécuritaire du week-end à Paris de la finale du PSG en Ligue des Champions, Laurent Nunez contre-attaque.
Pas de chaos sécuritaire, pas de grave dysfonctionnement, affirme le préfet de police de Paris devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Laurent Nunez dénonce les loupes médiatiques et rappelle qu'il n'y a eu en réalité qu'un seul pillage de grands magasins sur les Champs-Élysées et que les scènes sur le périphérique près du Parc des Princes étaient inédites mais finalement rapidement maîtrisées. Il réfute les accusations d'absence d'intervention et de chaos.
Moi je suis devant la représentation nationale, devant une commission qui parle de grave dysfonctionnement, monsieur le président. Moi pour moi il n'y a pas de grave dysfonctionnement, je vais droit au but, mais moi il n'y a pas un monde où j'accepte le terme de chaos et de fiasco sécuritaire. Il n'y a pas un monde où j'accepte ça. Vous parlez aussi à des fonctionnaires de police qui ont fait le job sur le terrain. Il y a l'effet image, l'effet chaîne d'information continue, vidéo, qui donne l'impression, en tout cas pour ceux qui veulent le voir, une impression d'absence de maîtrise de la situation. Ça n'est pas le cas. Il y a un dispositif qui a répondu à des violences. On a fait des interpellations comme jamais on en a fait avant et on a évité bien des exactions. Voilà. Nous n'avons pas, à ma connaissance, au moment où je vous parle, et j'espère que ce sera le cas dans les jours qui viennent, de gestes policiers déplacés, de personnes blessées du fait de l'action de la police. Donc là, l'action, elle a été offensive, efficace et proportionnée ce soir-là.
Et lui fait un saut vertigineux dans l'élite du foot européen. C'est désormais officiel. Ryan Cherki quitte l'Olympique lyonnais et la France pour rejoindre Manchester City. À 21 ans, le jeune attaquant a été acheté plus de 42 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui tombe à pic pour l'OL qui risque la rétrogradation administrative en Ligue 2 la saison prochaine.
C'était le journal de Laura Dulieu. La météo, encore une journée très ensoleillée avec quand même des brouillards fréquents ce matin du nord de la Bretagne au nord de la Seine. Cet après-midi, des orages éclateront sur les Pyrénées, ils remonteront du sud-ouest à la Bretagne dans la soirée. Pour les températures, 10 à 20 degrés ce matin du nord au sud. Cet après-midi, on dépassera les 30 degrés au sud de la Loire. Il fera jusqu'à 35 en basse-vallée du Rhône et 37 dans le sud-ouest. Il est 5h35. Dans 5 minutes, nous irons à Mayotte où les forêts et les mangroves ont entamé une longue reconstruction 6 mois après le passage du cyclone Chido. 11 juin 2025, une date importante pour notre invitée déjà debout. Elle publie une bande dessinée et ça tombe justement le jour des bulles de BD dans le 5-7, Laetitia Gaillet a sélectionné 3 histoires d'enfants.
France Inter. Le 5-7.
Une success story dans la chronique playlist. Bonjour Marion Guilbeault.
Bonjour Mathilde.
C'est celle d'une icône queer, l'américaine Chappell Roan.
L'été dernier, c'était impossible de passer à côté de ce tube planétaire, sauf si vous viviez dans une grotte, Mathilde. C'était Good Luck Babe, un hymne de la communauté queer devenu viral. Et de la chance, il en a fallu à cette native du Missouri, mais pas que. Vous rajoutez une dose colossale de volonté, du travail et puis cette intuition pour sentir l'époque. Et voilà comment on remporte le Grammy Award du meilleur nouvel artiste de l'année. Il faut dire que Kaylee Rose Armstead, c'est le vrai nom de Chappell Roan, a mis tout en œuvre pour se faire remarquer. Maquillage outrancier, look extravagant qu'elle confectionnait elle-même à ses débuts. Un jour, reine des neiges, le lendemain, chevalier en armure, statue de la liberté, papillon, elle s'est construit un personnage à l'esthétique camp et elle savoure aujourd'hui sa revanche sur une industrie musicale qui n'a pas tout de suite cru en elle. The Giver, seule chanson publiée par Chappell Roan en 2025, qui se fait ici un petit délire country. Alors attention à toi, Taylor Swift. Chappell Roan qui profite encore du succès phénoménal de son premier album sorti en 2023, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Elle est très influencée par Kate Bush. Elle lui emprunte cette voix au perché. Elle s'inscrit dans une électropop kitsch, celle de Lady Gaga et des drag queens. C'est sa principale source d'inspiration. Chappell Roan, c'est vraiment l'incarnation de la pop culture à l'américaine, avec ce sens du burlesque et de l'entertainment.
Mais au-delà de la forme et du look, c'est une artiste pleinement engagée.
Tout à fait, Mathilde. Chacune de ses interventions, scéniques ou télévisées, est prétexte à prendre la parole pour diverses causes. Celle de la communauté LGBTQ+, bien sûr. Elle se mobilise aussi pour les Palestiniens. Elle s'insurge contre la précarité des artistes. Elle a soudé autour d'elle une communauté de fans très active, même si elle n'hésite pas à les rappeler à l'ordre quand ils empiètent sur sa vie privée. Patouche minouche. Alors, n'en déplaise à Donald Trump, en 2025, la nouvelle petite fiancée de l'Amérique est excentrique, gay et engagée.
Row, Naked in Manhattan, l'une des 14 chansons de son album The Rise and Fall of a Midwest Princess.
Et elle sera en concert, c'est une date unique en France, ce sera au Festival Rock en Seine le mercredi 20 août.
À Paris. Merci Marion Guilbeault. Il est 5h40. Mayotte, ravagée par un cyclone il y a 6 mois, comment parvient-elle à s'en relever? France Inter est retournée sur place. La catastrophe n'a pas détruit que des habitations, elle a aussi dévasté la biodiversité qui fait partie des plus grandes richesses de l'île. Reportage de Béatrice Duguet.
Le vert, la couleur, est de retour à Mayotte. Pourtant...
J'ai quand même discuté avec quelques Mahorais qui ont pleuré en reconnaissant plus leur champ en fait. Pendant des mois, on était perdus. Hein. C'est un traumatisme pour la plupart des Mahorais. Hein.
La nature qui repart est trompeuse, donc. Nous sommes près du lac Cariani, dans le centre de l'île, avec Émilien Dautray, directeur du GEPOMAI, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. Les cocotiers sont scalpés, les canneliers, les arbres à cannelle, par terre. Les ylangs, eux, ont résisté et ils ont retrouvé des feuilles, mais...
On voit bien le ciel alors qu'avant, on ne voyait pas le ciel quand on était ici. C'est quasiment que des troncs, en fait. Toutes les branches ont été balayées par le cyclone. On ne savait pas s'ils allaient repartir. Puis finalement, ils repartent de façon très étrange, puisque les feuilles sont directement sur les troncs. A priori, des branches vont repousser, mais c'est une forêt, on voit, qui est handicapée. Ouais. Et là, en fait, il y a des troncs partout sur le sol, mais on ne les voit plus parce qu'elles ont été recouvertes par les espèces herbacées et les lianes.
Des lianes envahissantes pour certaines, qui menacent la repousse des arbres. La forêt à Mayotte, c'est le château d'eau et le climatiseur de l'île. Quant à la mangrove, les palétuviers servent de nichoir et de rempart. Or, là aussi, il y a du dégât, constate Juliette Crouzet de l'Association des naturalistes de Mayotte. Par exemple, le quartier Ngombani, à Mamoudzou, en bordure de route.
Ah là, c'est très, très endommagé. Les branches cassées au milieu, les arbres sont encore cassés en deux, ils n'ont toujours pas de feuilles et tous les déchets en arrière, les bouteilles en plastique. De voir l'état comme ça, puis qu'on ne sait pas si ça repartira complètement ou pas. Ça montre peut-être le rôle protecteur qu'elle a eu aussi, se dire qu'elle nous a vraiment protégés. C'est sacrifié, elle a fait barrière. S'il n'y a pas eu cette mangrove, il y aurait eu des très grosses vagues qui, je pense, seraient arrivées directement en ville et ça aurait pu être encore bien pire.
On peut replanter une mangrove ?
Il y a des projets de replantation où certains font des pépinières et ils replantent. Le mieux, c'est de laisser faire la nature. Parce qu'on a 7 espèces de palétuviers différents à Mayotte et chacun va être adapté à certaines conditions. Voilà, on a des choses, on ne peut pas juste prendre un arbre n'importe lequel et le planter à cet endroit-là.
La mangrove est vraiment très endommagée dans le nord, en meilleur état dans le sud. Elle qui évite aussi au lagon de s'envaser.
La forêt, la mangrove ont donc été sévèrement touchées. Le lagon également s'est pris chido de plein fouet.
Les vagues de 9 mètres ont dévasté les coraux. François Elipotz de l'association de protection de l'environnement Oulanga Nanyamba n'a trouvé que récemment le courage d'aller voir.
Sur les récifs de l'Est, c'est gris, c'est soufflé. On voit quand même des petits bourgeonnements. Donc on sait que ça va reprendre, mais quand on connaît la croissance des coraux, que ça met plusieurs dizaines d'années pour faire quelques centimètres, on sait que ça va prendre du temps.
Il faudra du temps aussi pour reconstituer les herbiers qui nourrissent les dugongs et les tortues.
Au milieu, là on voit très bien, on a la trace de la queue. L'apex de la queue voilà, fait le petit trou quand la tortue se pose, donc il y a tout le poids de la tortue.
3000 tortues pondent toute l'année à Mayotte, notamment sur cette plage de la Moya à Petite Terre, chamboulée comme beaucoup d'autres par le cyclone.
Il y a des dunes de sable qui se sont formées, c'est surtout dans le nord. On a vu quand même des grosses dunes de sable où les tortues venaient. Elles sont capables de gravir 15 mètres de hauteur en plus pour venir pondre. Mais c'est du sédiment qui n'est plus le même. Est-ce que c'est des conditions propices au développement des embryons? Ça, on ne sait pas. Ouais.
Les scientifiques et les services de l'État observent de près cette nature qui donne donc des signes de résilience. Le milieu économique aussi, car Florian Amardeil, restaurateur à Mamoudzou, le sait. L'environnement, c'est la ressource de l'île.
Il y a beaucoup de fonctionnaires qui voient beaucoup de misère, beaucoup de choses difficiles, que ce soit au CHM ou dans la police notamment. Et ce qui les fait tenir ici Mayotte, c'est d'avoir la chance de pouvoir aller sur un des plus beaux lagons du monde pour aller voir les baleines et les dauphins. Et aujourd'hui, voilà, sans ces activités-là, ça va être très difficile de renouveler le contingent de professeurs, de médecins, d'infirmiers, de magistrats et tout ça.
Tous les acteurs de l'île attendent donc du projet de loi de reconstruction de Mayotte un soutien conséquent à l'environnement.
Béatrice Duguet pour ce reportage à Mayotte, 6 mois après le passage du cyclone Chido.
France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7.
Il est 6h moins le quart, l'heure de faire connaissance avec l'invité déjà debout. Bonjour Chloé Sellerien.
Bonjour à tous les auditrices de France Inter et tous les auditeurs de France Inter.
Merci pour eux, vous vivez à Pantin, près de Paris, vous êtes journaliste, autrice et dessinatrice de BD. Allez, j'attaque directement par la question incontournable, pourquoi vous levez-vous si tôt?
Alors parce que moi c'est une question d'éducation, j'ai été élevée par des femmes, deux grand-mères qui se levaient très tôt. Une pour s'occuper de la maison et l'autre parce qu'elle faisait des ménages. Donc, on ne connaît pas vraiment les grasses matinées. Et puis aussi, aujourd'hui, maintenant, je suis maman de deux filles. Donc, comme le disent souvent vos auditeurs, ben, c'est un moment un peu privilégié. Un moment que je m'occupe que de moi, avec mon café. Puis en ce moment, c'est vraiment un bon moment pour se lever tôt parce que ben, y a des couleurs assez incroyables dans le ciel. Donc, moi qui dessine, c'est toujours fascinant pour moi d'assister au lever du jour.
Alors, vous dites que c'est une question d'éducation, mais il y a le corps aussi, quoi. Vous n'êtes pas fatigué parfois le matin, envie de rester au lit ou vous vous forcez à vous sortir du lit puisque c'est l'exemple que vous ont donné vos grands-mères ?
Oui, puis de toute façon, c'est aussi une question intellectuelle. C'est-à-dire que moi, quand je suis réveillée, mon cerveau est en marche. Donc, je travaille beaucoup mieux le matin que le soir. Donc, j'en profite. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ça me permet d'écouter les infos. Parce que comme je suis maman de deux filles, écouter les infos au petit-déj avec les enfants aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, je suis seule, bon, avec France Inter le matin.
Vous n'êtes pas seule, donc.
De démarrer la journée.
Je suis avec vous, c'est ça en fait, ce que vous me dites.
Exactement.
Allez, ce mercredi est un jour important pour vous parce que votre nouvelle BD sort aujourd'hui chez Marabout. Grâce Géioro, croire en ses rêves. C'est une footballeuse française, hein, Grâce Géioro. Que racontez-vous sur elle ?
En fait, Grâce Guillot, elle a une histoire à la fois personnelle et familiale incroyable. Déjà parce qu'elle est née en 1997 en République démocratique du Congo. Sa famille a dû quitter justement ce pays à cause du génocide parce qu'elle craignait pour sa vie. Et quand elle est arrivée en France, ben, la petite Grâce, elle avait juste un rêve, c'était de jouer au foot. Le problème, c'est qu'elle partageait sa chambre avec son frère, Yann, et que sur les murs de la chambre, il n'y avait que des garçons. Il y avait Cristiano Ronaldo, etc. Donc, elle se disait logiquement que le foot, c'était pas pour les filles. Heureusement, son frère, il l'emmenait au City Stade à côté. Il avait besoin de quelqu'un pour lui renvoyer la balle. Donc, il mettait sa sœur dans les cages. Et au bout d'un moment, elle en avait marre d'être aux cages. Donc, elle a demandé à son frère de changer. Puis là, son frère s'est aperçu que sa sœur avait quelques capacités en foot. Donc, il est allé l'inscrire dans un club de foot. Et le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a très peu de filles qui font du foot. Et il y a des clubs qui refusent de prendre les filles. Et puis, il y avait un autre obstacle aussi. C'est que sa maman ne voulait pas que sa fille fasse du foot parce qu'elle pensait que si sa fille faisait du foot, elle allait se transformer en garçon. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, nous, on avait envie de montrer qu'aujourd'hui, une petite fille qui veut faire du foot, qui peut se rêver en footballeuse professionnelle, et c'est important de proposer des exemples. C'est pour ça qu'on a décidé de raconter l'histoire de Grâce.
Vous dites nous, vous dites on, c'est-à-dire c'est avec qui avez-vous fait cette BD ?
Alors d'abord avec ma maison d'édition, oui. Marabulle, qui est une maison d'édition engagée, qui a pour but d'éduquer par le sport, donc ça c'est vraiment mon credo aussi, j'en suis convaincue. Et puis je parle aussi de la dessinatrice, parce que je vous ai dit que j'étais journaliste, autrice et dessinatrice, mais sur ce livre-là, je n'ai fait que l'écriture du livre, je me suis associée à un talent merveilleux, elle s'appelle Blachette, et c'est intéressant aussi de confronter plusieurs univers, et elle a apporté son univers graphique pour dessiner l'histoire de Grâce.
Oui, parce que dans le précédent roman graphique, là vous aviez aussi fait les dessins. Génération Point Levé.
J'avais tout fait, ouais. Voilà, exactement, les dessins, les histoires, Génération Point Levé.
Et ça aussi, là, c'était des portraits sportifs. Ouais, aussi, pour sportifs,
exactement.
Et sportives.
C'est un roman graphique, c'est mon troisième enfant, comme je dis souvent. ce sont 10 sportifs, 5 hommes, 5 femmes, qui ont pris des risques pour leur carrière, mais aussi pour certains, pour leur vie, pour mener des combats contre l'homophobie, le sexisme, le racisme. Ça va de Tommy Smith en 1968 sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico à Surya Bonaly aussi.
La patineuse. La patineuse française. C'est quoi ? C'est le saut qu'elle fait à l'envers, là, l'espèce de salto ?
Ce qu'il faut avec Surya Bonaly, c'est que c'est une patineuse des années 90, donc ça date un petit peu. Et moi, qui interviens pas mal en milieu scolaire pour raconter justement toutes les histoires de ces sportifs, je me suis rendu compte que les nouvelles générations la connaissaient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 1998, Surya Bonaly, quand elle fait ce fameux saut backflip, hein, ce salto arrière aux Jeux Olympiques,
oui,
ce qui est interdit en compétition et qui va la disqualifier, elle va marquer l'histoire de son sport et les jeunes générations voient sur TikTok encore le saut de Surya Bonaly, donc ils la connaissent.
C'est l'audace qui leur plaît, le côté rebelle ?
Bien sûr, et le côté hors des codes aussi. Mmh. Une patineuse noire, adoptée, qui vivait dans un milieu très pauvre, qui décide de casser les codes de sa discipline, ça, les jeunes générations, ils adorent.
Ça ferait une belle BD, ça aussi, hein ?
Bah, figurez-vous que c'est prévu.
Ah, parfait. En tout cas, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Chloé Sellerien. Je vais redonner le titre de votre nouvelle BD qui sort aujourd'hui, Grâce Géioro, croire en ses rêves. Et ça tombe pile poil le jour des bulles de BD qui arrivent dans 4 minutes. Qui sait, peut-être qu'un jour, Laetitia Gaillet en sélectionnera une des vôtres.
J'espère.
Je vais lui glisser l'idée. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Il est 6h10. Batman et Cendrillon sont ce matin dans les petits bateaux de Camille Cronier. What the fuck? What the fuck?
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, allons sauver le monde.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 13 ans et je voudrais savoir pourquoi dans les films, les héros, les héroïnes sont toujours parfaits, ont un talent et ne se prennent jamais de râteau. Merci.
J'adore cette question, Emma. Pourquoi dans les films, les héros et les héroïnes sont toujours parfaits, ont un talent et ne se prennent jamais de râteau? Merci pour ton naturel. Bernadette Bricou, vous êtes professeure de littérature orale à l'Université Paris-Cité. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je pense avec Emma qu'il faudrait savoir de quel héros nous parlons. Si on est du côté du héros des films d'aventure, je vais en prendre un presque au hasard, mais je l'aime beaucoup, comme Zorro. Ou ses successeurs, Batman et Superman, qui, moi, me paraissent moins poétiques, mais enfin, ça n'engage que moi.
Et pareil chez les filles, Wonder Woman, enfin,
voilà,
ils sont
Wonder
tous parfaits.
Woman, ils sont dotés de super-pouvoirs, c'est vrai. Ils sont armés pour toutes les épreuves. Ils ont un talent, celui de s'imposer, d'imposer leur pouvoir. Sur le terrain de la guerre et du combat, ils triomphent toujours. Et ils se prennent jamais de râteau. Bon, bah, si on est dans le râteau en matière amoureuse, c'est vrai que, bah, ils ont beaucoup d'atouts pour eux. Ils ont le pouvoir, ils ont la gloire, ils ont la renommée.
La beauté.
Et la beauté. Enfin, la beauté, oui, la beauté de Batman. Oui, peut-être. Oui, enfin, bon, ça dépend de l'acteur. Mais enfin, la beauté. Alors, disons la beauté. Et elle a raison, Emma, ils se prennent jamais de râteau. Mais, dans les contes, nous n'avons pas affaire à ces héros sans peur et sans reproche, séduisants, qui s'imposent un peu comme des stars de cinéma et qui ne se prennent jamais de râteau. Il faudrait d'ailleurs voir dans le détail si dans la vie des stars de cinéma, ils ne se prennent jamais de râteau. Leur légende le dit. Mais moi, je pense que la vie de chacun est beaucoup plus compliquée.
Mais dans les contes, moi, je pense à La Belle au bois dormant ou à Blanche-Neige, pardon, mais on n'a pas l'impression que, ou Cendrillon même, qu'elle séduit toutes les...
Mais justement, le héros de conte ou l'héroïne de conte, elle est aux antipodes. Ils sont aux antipodes de ça. Parce que le héros de conte, héros ou héroïne, hein, je dis héros, le héros ou l'héroïne du conte, au départ, elle porte un masque. Bien sûr que Cendrillon est intérieurement très belle et très lumineuse, mais nul ne le voit. Il faudra qu'au terme du conte, qu'elle puisse apparaître telle qu'elle est, dans toute sa gloire. Et moi, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je remercie Emma d'avoir posé cette question, c'est ce qu'on appelle dans le conte la transfiguration. C'est ce moment où la lumière se fait. C'est le moment où les vainqueurs d'un match de football ou des Jeux olympiques vont monter sur le podium pour apparaître dans toute leur gloire. C'est le moment où ils nous élèvent au-dessus de nous-mêmes à tel point que leur gloire devient la nôtre.
Donc vous êtes plus conte que film.
Plus
vous êtes plus Cendrillon que
film
Batman.
D'aventure. Ah, je préfère Cendrillon à Batman. Pour ce qui est de Robin des Bois, on verra. Il a quand même quelques atouts.
Ça, c'est vrai. Enfin, sinon, il y a Moi, moche et méchant en contre-exemple. Hein. Ça marche pas mal aussi. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux de Camille Cronier.
France Inter. Le 5-7.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Mathilde.
Les bulles de BD font dans la jeunesse ce matin. Vous avez sélectionné 3 albums. On commence avec Le meilleur voyage de toute ma vie de Dan Santa.
1989.
J'ai grandi dans une petite ville en banlieue de Los Angeles. Le monde se résumait à Camarillo. Ma mère était malade, elle allait souvent à l'hôpital. On voyageait peu du coup.
Dan est fils unique. Sa vie se résume au dessin, aux copains et à surtout ne pas faire de vagues au collège. Mais cet été-là, sa vie d'ado maladroit va basculer.
3 semaines en Europe, j'espère que tu mesures ta chance.
Pensez, Paris, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre. Non, le gamin de l'époque ne mesure pas vraiment. Il fait la gueule, c'est un ado.
«
Pourtant, il va s'en passer des choses. Dan va monter la tour Eiffel à pied, se taper la honte en laissant tomber son bout de pain dans la fondue en Suisse, se faire vomir dessus à Munich.
Toutes mes affaires sentent mauvais maintenant.
On s'en fiche, balance-les dehors.
Aller en discothèque en Autriche, voir gratos la demi-finale de Wimbledon. Mais surtout, au fil de ces moments tellement éloignés de son quotidien, il va rencontrer Amy. La belle Amy, qui aime l'humour de cet ado et sa gentillesse. Le meilleur voyage de toute ma vie parle d'un temps où on buvait du Fanta, d'un moment de la vie où tout est grave et rien n'est important. Avec son dessin jeunesse, Dan Santa réussit un pari audacieux, rendre son expérience universelle.
Le meilleur voyage de toute ma vie de Dan Santa s'est paru chez Rue de Sèvres. La deuxième BD est une adaptation du roman de Larry Tremblay, L'Orangerie, par Pierre Lecrenier.
L'Orangerie ne racontera pas la même adolescence, elle sera son exact opposé.
À la place de ta mitraillette que tes mains tiennent avec tant d'acharnement, tu pourrais porter autour de tes reins une lourde ceinture d'explosifs. Ta main serait sur le détonateur et ton cœur serait sur le mien.
Aziz ne s'est pas toujours appelé Aziz. C'était le prénom de son frère jumeau. Avec Aziz, dans une enfance baignée par l'odeur de l'orangerie paternelle, Ahmed vivait sa vie d'enfant, simple et innocente. Mais en quelques mots...
Quand Soulayed est arrivé avec ce sac, je n'ai pas compris ce qu'il me montrait. Au moment où je vous parle, Ali me porte une ceinture comme celle-là et vient de se faire exploser.
Acculé par des soldats rebelles, le père va devoir choisir un de ses fils, au nom d'un dieu que ses gamins n'envisagent même pas. Il optera pour Ahmed le plus téméraire. Aziz est malade, il faut le protéger. L'Orangerie sera cette histoire-là. Des frères qui échangent leur place, car Aziz se sait mourant. Ahmed a peur de mourir, mais comment vivre après ça ?
Je te parle avec de la paix dans la bouche. L'entends-tu ?
Comme le roman ou la pièce de théâtre, la BD est bouleversante parce que pour raconter l'horreur de la guerre, l'auteur a réduit au minimum dialogue et décor. Le dessin est doux. Dans la mort, L'Orangerie est un hymne à la vie.
L'Orangerie de Pierre Lecrenier s'est édité par Rue de Sèvres. On termine par une BD pour les plus petits, Unico, de Satine et Goury Hirou, d'après l'œuvre de Tezuka.
Psyché est jolie, Vénus, la déesse de l'amour, est vénérée. Psyché cultive des fleurs, Vénus la jalousie, mais comment faire pour éliminer une rivale qui rayonne ? Réponse, en lui enlevant son atout maître, son bébé licorne. Pour la protéger, Vent de Nuit va transgresser les désirs de sa maîtresse Vénus en l'amenant sur Terre. Pour y faire quoi ? Unico n'en sait rien, il a perdu la mémoire. Mais les aventures sont folles.
Chloé, où vas-tu ?
Reste ici, monte la garde !
Rencontre avec le chaton Chloé, adoré par son maître et détesté par sa petite amie.
Dis, j'ai une idée, tu sais faire de la magie, non ?
Unico a le pouvoir de rendre les gens heureux. Et sur Terre, ils sont nombreux à en avoir besoin, comme cette mamie en lisière de la ville. Mais Vénus ne laissera pas faire.
C'est un pantin tout trouvé. Grâce à lui, j'écraserai ce pouvoir nuisible.
Née en 76 de la main du maître du manga moderne Osamu Tezuka, Unico est une ode au bonheur simple. Satine et Goury Hirou ont modernisé la petite licorne. Une houppette violette, un regard de défi, on est dans les codes de l'animé, c'est fun et plein de finesse.
Unico de Satine et Goury Hirou, c'est chez Flammarion Jeunesse et c'est aussi en images à la page Bulle de BD de l'appli Radio France. Laetitia Gaillet, restez dans les parages, je vous attends dans 20 minutes pour Regarde la France.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter présente...
5e République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Notre constitution est-elle à bout de souffle ? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle ? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5e République, anatomie d'un régime en crise, un livre France Inter.
5h59.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Ça grimpe, Elodie Calac.
La chaleur s'accentue, les températures sont orientées à la hausse ce matin et cet après-midi aussi. Comptez 17 à 20 degrés ce matin du sud-ouest à la Méditerranée, 10 à 15 ailleurs. Cet après-midi, 23 à 28 degrés près de la Manche jusqu'au Grand Est. On dépassera les 30 degrés au sud de la Loire jusque dans l'intérieur de la Bretagne. Il fera jusqu'à 35 degrés en basse-vallée du Rhône et 35, 36, voire 37 sur le sud-ouest et les Charentes. Tout ça sous le soleil. Patience tout de même ce matin. Les brouillards et les nuages bas sont nombreux du nord de la Bretagne au nord de la Seine. Ça ne va pas durer. Le ciel est parfois bien voilé de l'Aquitaine à la Vendée. Et puis ça va devenir lourd et instable sur l'ouest cet après-midi. Des orages parfois forts vont se déclencher sur les Pyrénées, puis remonteront du sud.